Et j'ai le plaisir de m'entretenir avec notre chroniqueur juridique, Laurent Trépanier-Capistran, avocat pour l'organisme à but non lucratif, juriste à domicile. Bonjour Laurent.
Bonjour Madame Jean-Jean, comment allez-vous?
Ça va très bien, merci. Alors, et merci aussi de venir clarifier le partage des compétences entre les différents paliers de gouvernement. Cela va nous servir pour notre table ronde dans quelques minutes. Alors, qu'est-ce que l'on peut revendiquer en tant que citoyen lors de prochaines élections provinciales québécoises?
Ben, tout à fait, hein, parce que la campagne électorale, et puis là, on sent déjà le vent de campagne préélectorale qui va souffler cet été. Donc, c'est important de savoir qu'est-ce qu'on peut de faire comme revendication au niveau des différents paliers de gouvernement. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous parle de partage des compétences. Le partage des compétences, plus spécifiquement, mais ça vient nous indiquer qu'est-ce que le fédéral peut faire et qu'est-ce que le provincial peut faire. Et quand je dis peut faire, ce que je veux dire, ce sur quoi ils ont le pouvoir de passer des lois, et donc de légiférer sur certains domaines. Et ça, c'est inscrit dans deux articles dans notre Constitution. Et ça, c'est des dispositions qui datent de 1867. Donc, ça fait quand même un petit moment. Et donc, quand on regarde ces articles-là, si vous allez les voir sur le web, par exemple, vous allez vous rendre compte que ça ressemble beaucoup à des listes d'épiceries qui prévoient vraiment, là, numérotées, qui prévoient quels sont les domaines dans lesquels le fédéral et le provincial peuvent agir.
Ok,
Et donc,
comment ça s'est séparé tout ça?
ben, comment c'est séparé? En fait, c'est assez simple. Il y a un article qui régit le fédéral et il y a un autre article qui régit le provincial. Donc, c'est important parce que, en fait, on est dans un État fédéral. Donc, c'est-à-dire que l'État fédéral, ça, c'est un État où les pouvoirs sont séparés entre, d'un côté, on a les provinces et d'autre côté, le fédéral. Versus, par exemple, d'autres pays qui sont organisés d'une autre façon, qui sont organisés en État unitaire. Par exemple, la France, où un seul gouvernement a un pouvoir de légiférer sur l'ensemble des
Territoire.
réalités de l'État, exactement, l'ensemble du territoire. Donc, ce qui n'est pas le cas du Canada. Donc, si je passe tout de suite aux exemples, eh bien, on peut dire, par exemple, si on se concentre sur le provincial, parce qu'on sera en élection provinciale cet
En
automne,
octobre, oui.
donc, on a la santé, l'éducation, les municipalités, et aussi tout ce qui est la propriété et le droit civil. Donc, ça, c'est tout ce qui est le droit privé, donc qui peut intervenir entre deux particuliers, entre deux individus ou entre des compagnies, mais qui n'implique pas les gouvernements ou l'État.
D'accord.
Donc, tout ça, c'est des exemples de ce que le provincial a dans son champ de compétences. De son côté, le fédéral, si je donne également quelques exemples, il y a le service des postes, les chemins de fer, les banques, tout ce qui est régi aussi au niveau de la faillite, l'armée et finalement, une des grosses compétences du fédéral, on a le droit criminel. Mais il ne faut pas oublier non plus que le fédéral a un pouvoir résiduel. Donc, quand on a créé la Constitution et ces articles-là, comme je vous le disais en 1867, ce qu'on s'est dit, on s'est dit, ben, ça se peut qu'on n'ait pas tout prévu dans ces articles-là. Et donc, s'il y avait quelque chose, une nouvelle compétence qui devait surgir là au fil des années, ben ça sera le fédéral qui va s'en occuper de ça.
D'accord.
Je vous donne un exemple. Les télécommunications, donc tous les services de téléphonie puis de télévision câblée, tout ça, évidemment, en 1867, ça n'existait pas.
Oui.
Et donc, aujourd'hui, c'est le fédéral qui va régir ça.
D'accord. Et donc, par exemple, si donc dans la plateforme de revendication commune, les groupes d'intérêt pour aînés demandent une hausse du crédit d'impôt pour les frais médicaux, ça relève du Québec?
Ça va relever du provincial, effectivement, parce que ça va venir se rattacher à sa compétence en santé, donc
D'accord.
aux hôpitaux, etc. Et donc, vos auditeurs les plus attentifs d'entre eux auront peut-être remarqué que quand on fait une petite énumération, comme je viens de le faire, des compétences, on se rend compte, comme vous le soulignez, Mme Janson, que, par exemple, la santé, c'est une compétence importante, l'éducation aussi, puis quand on les compare au fédéral, on peut se dire, ben, peut-être que, du moins, ça occupe des parts de budget beaucoup moins importantes.
Oui.
Mais il faut se replacer à l'époque, hein, parce que je vous disais tout à l'heure, en 1867, c'est là que ça a été mis en place. Mais en 1867, l'éducation puis la santé, pour reprendre ces exemples-là, ben, c'était pas réellement une responsabilité de l'État, c'était davantage l'Église qui gérait ça. Donc, une
Eh oui.
grosse compétence, entre guillemets, et revenons au fédéral, mais la société est organisée différemment aujourd'hui, donc il y a eu un petit peu un renversement de la vapeur et puis on se retrouve aujourd'hui avec des compétences qui sont plus dispendieuses et souvent auxquelles les gens accordent plus d'importance, bien, qui vont être attribuées au provincial. Et souvent, généralement, comme c'est le cas probablement de la table ronde et de vos invités qui viendront, les personnes aînées sont très préoccupées par la santé et puis bien, c'est l'occasion rêvée parce que cette campagne électorale-là est provinciale cet automne et donc ce sera l'occasion d'adresser ces revendications à l'automne au provincial puisque c'est lui qui a compétence.
Oui, pour les proches aidants également.
Et tout à fait, oui. Donc tout ce qui sera à la santé, vraiment, là, on se rapporte au provincial.
D'accord. Et Laurent, j'ai une petite question par rapport à une entrevue qu'on a faite la semaine dernière avec la Société Santé en français. On les a reçus, ils appuyaient une déclaration du fédéral pour que les communautés francophones soient servies en français à l'extérieur du Québec. Finalement, ça relève de qui? Parce que là, on parle de langues officielles, de santé.
Tout à fait.
Dites-nous.
Ben, donc, c'est ça. En fait, vous avez raison de vous poser la question, hein, parce que ça peut paraître étrange. Là, dans votre entrevue qui était au même micro la semaine dernière, on nous disait que le gouvernement fédéral avait publié une déclaration qui venait supporter finalement le bilinguisme au niveau de la santé au travers du Canada pour les communautés qui sont minoritaires au niveau de la langue.
Oui.
Eh bien, je vous dirais qu'il n'y a pas un grand risque pour le fédéral à s'engager de la sorte parce que c'est sûr que ça passe un appui politique qui est important pour votre invité de la semaine dernière, mais puisqu'il n'a pas compétence, donc il ne sera pas forcé là, de prendre de grandes actions à ce niveau-là. Donc, ça ne représente pas un grand engagement pour le fédéral. Contrairement à ce que ça avait été appuyé par le provincial, eh bien là, c'est un engagement qui aurait pu être plus lourd de conséquences parce que ça aurait pu forcer à prendre des actions plus directes.
D'accord.
Il reste tout de même que le Canada étant un pays bilingue, la jurisprudence à ce niveau-là nous indique que les gouvernements ont des obligations de bilinguisme institutionnel. Donc, c'est-à-dire que l'institution doit être en mesure de nous offrir le service autant en français qu'en anglais, mais pas nécessairement les individus qui travaillent pour les différentes institutions gouvernementales.
D'accord, ben c'est très clair. Merci beaucoup, Maître Trépanier-Capistran. Pardon, je le rappelle, vous êtes avocat pour Juriste à domicile. Au plaisir de vous reparler.
Ben, merci beaucoup, c'est toujours un plaisir.
Au revoir.
Au revoir.